I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec, le podcast où je donne chaque 1er et 15 de chaque mois la parole à un mec pour répondre à une question essentielle mais que pourtant trop peu de gars se posent. C'est quoi pour toi être un mec ? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des portes. Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des portes sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interviews, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Cette semaine, je reçois Jérémy Frérot qui a sorti son nouvel album intitulé « Meilleure vie » il y a quelques mois. On discute de sa vision de la masculinité et comment elle a évolué avec le temps, lui qui a écrit dans son dernier album, donc, un single intitulé « Un homme » où il interroge sa vision du mal dans la société. Il raconte aussi comment la paternité l'a transformé et comment il a ouvert la voie à sa femme pour faire un accouchement à domicile pour leur deuxième enfant, une méthode où le futur papa a une place beaucoup plus centrale dans l'accouchement. Faut dire que sa femme n'étant autre que Laure Manaudou, peut comprendre qu'il ait voulu protéger leur vie privée. Il vous racontera d'ailleurs une anecdote à ce sujet à propos de la naissance de leur premier enfant, c'est assez intéressant. Vous découvrirez la personnalité très attachante de Jérémy dans cet épisode. Un grand merci à lui pour sa transparence et sa gentillesse. J'espère que vous passerez un bon moment en sa compagnie. On est avec Jérémy Frérot. Salut Jérémy.
Salut.
Ça va ?
Ça va très bien, merci, et toi ?
Ça va bien. Jérémy, tu sors ton nouvel album, enfin, qui est sorti déjà il y a quelques semaines,
ouais.
Qui s'appelle Meilleure vie.
Ouais.
Et c'est ton attaché de presse qui m'a dit tiens, ça serait intéressant qu'on fasse un épisode ensemble, et ça tombait bien parce que j'avais repéré aussi ton fameux titre qui s'appelle Un homme, mm-hmm. qui était je pense le premier single d'ailleurs qui est sorti.
Ouais, si ouais, ouais pas, ça l'est toujours, hein. On est en train de chercher le deuxième, mais là ça l'est toujours.
Il n'y en a pas d'autres encore qui sont sortis.
Non.
Où tu parles de masculinité, donc je m'étais dit tiens, ça serait intéressant d'avoir Jérémy dans le podcast. Donc tu vois comme quoi les grands esprits se rencontrent. Et la première question en fait que je pose à tous mes invités, c'est en fait c'est quoi pour toi être un mec? Et ouais, parce que c'est un peu le titre de la chanson, c'est un peu le thème de la chanson en même temps.
Ouais, c'est vrai. C'est une galère cette question, hein.
Ouais, je sais. Mes invités galèrent en général. Et moi aussi je galère avec.
Mais enfin c'est bien qu'on galère. C'est bien qu'on galère parce que je pense que si on posait cette question il y a 50 ans, on serait tous y répondre en disant faut être un homme, pour être un homme, il faut être musclé, il faut être costaud, il faut être un prédateur sexuel, il faut être viril.
C'était quoi pour toi le mec d'il y a 50 ans, le rôle modèle, je sais pas, un acteur ou un chanteur par exemple?
Je sais pas, c'était peut-être pas il y a 50 ans, mais t'avais souvent des acteurs hyper costauds, hyper virils, avec des gueules qui font peur, des animaux un peu là. t'avais des Sylvester Stallone, t'avais des Schwarzenegger. Aujourd'hui, le prototype peut-être en moyenne, on pourrait s'accorder à dire que c'est Alain Souchon ou des Philippe Catherine, tu vois,
ouais.
Des gens qui ont qui expriment pas mal leur féminité. Être un homme aujourd'hui, voilà, c'est vachement complexe. Il y a de la souffrance aussi pour d'essayer de se positionner, de savoir comment s'exprimer et comment réagir avec toute cette ancienneté, cette éducation patriarcat.
Ouais. Là.
Tu vois, c'est on sort de là et il faut réapprendre les règles. il faudrait apprendre les codes de la séduction, de la sexualité, de l'éducation, des manières de faire, de parler. Et du coup, bah, on se cherche. On est dans le moment où on se cherche. Et c'est bien. De se poser des questions, déjà, c'est une bonne avancée.
T'as 30 ans, toi, c'est ça ?
31 ans.
31.
Ouais.
Comment t'as la sensation d'avoir été éduqué en tant que petit mec ?
Bah, moi, je tombe un peu de haut. Enfin, je tombe un peu de haut. Je savais un peu tout ce qu'un homme pouvait accomplir et faire de mal. Mais je n'ai jamais été en relation avec ça parce que mon père et ma mère sont toujours ensemble. Et à la maison, j'ai vu mon père faire les lessives, j'ai vu mon père nous faire à manger, j'ai vu mon père nous garder quand ma mère n'était pas là, et vice-versa. Donc il y a toujours eu ce rapport d'égalité et de respect qui ont fait que j'ai été baigné là-dedans. Donc il y a 4-5 ans, voire tous les hashtags et tout, toutes les horreurs qui sortent depuis jusqu'à aujourd'hui maintenant, et ça en sort, on en sort encore.
Continue, hein.
Mais je pense que c'est parce qu'on a cette parole qui se délie et qui est super.
Mais ça t'a fait bizarre de voir sur ton mur Facebook,
de voir autant en fait, d'en voir autant. Je savais qu'il y en avait, mais de voir qu'il y a autant de cas avec autant de monde,
des proches aussi peut-être. Pour moi, c'est un truc aussi qui a été marquant pour plein de mecs.
Ouais, carrément. Je crois qu'on a tous maintenant des discussions où tu sais, lui, tu te rappelles, lui, il a fait ça, machin.
Là où avant, on laissait peut-être un peu.
Là où avant, on n'en parlait pas, ou peut-être que on laissait passer. Et donc, il y a eu ce moment-là où je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Et puis, il y a eu aussi ce truc où, vu que je me suis pas posé la question de ce qui était bien ou ce qui était pas bien, est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis dans le mal? Moi aussi, est-ce que je me rends pas compte? Et du coup, j'ai commencé à flipper un peu aussi, à me dire, comment je vais m'exprimer avec les femmes maintenant et avec les gens en général? Comment pas passer pour le gros pervers, comment pas passer pour le gros lourd, il y a eu ce moment-là, et d'où la chanson, du coup, Un homme qui est arrivé, où je montre que je me pose des questions, que j'essaie de savoir quelle est la place. Moi je parle de mon couple. Quelle est ma place dans mon couple?
Tu poses la question à ta femme.
Ouais, c'est ça. Dans les chansons où il y a ces conversations, c'est sûr que moi, je pense à ma femme. Mm-hmm. Après, c'est des chansons tellement universelles qu'on peut se l'approprier pour chanter à tout le monde. Mais ouais, je me pose des questions à comment redéfinir et comment être dans le couple.
Et pour revenir un peu à ton éducation, c'est très connu que t'as un frangin, parce que vous avez fait ce groupe ensemble tous les deux. Comment ça s'est passé dans votre éducation en tant que frère? Parce que c'est un truc aussi, ça, de grandir avec un frangin.
Alors, c'est une grosse. Il y a une faute, mais on l'a bien entretenu. On l'a fait exprès de l'entretenir. c'est pas mon frère.
Quoi?
C'est pas mon frère. C'est mon vrai nom, Jérémy Frérot.
Okay.
Et donc, on s'appelle Frérot de la Vega parce que lui, c'est de la Vega. Flo de la Vega. Mais il a une famille et j'ai une famille.
Ah, mais merde! Mais tu vois, j'ai pas assez taffé.
Non, mais il y a beaucoup de monde qui se trompe. Nous, des fois, on reprend pas, on aime bien. Là, ça va être réqué, donc on va quand même reprendre. Et puis, tu poses une question sur l'éducation qu'on n'a pas eue, du coup,
ouais,
ensemble.
Ouais. Ceci dit, t'as grandi avec un frangin aussi ou pas?
Ouais, j'ai eu un frère et une sœur.
Okay.
Un petit frère et une petite sœur.
Donc ma question marche fondamentalement, sauf qu'effectivement, c'est pas le frangin qu'on a vu médiatiquement.
Non. qu'est-ce que c'était ta question déjà?
Comment ça s'est passé de grandir avec un frère? Et puis de grandir avec une sœur aussi en tant que mec, parce que c'est un autre truc, je crois.
Après, on a les mêmes sujets de conversation. Quand on a un frère, moi, on a 3 ans d'écart, donc c'est mon meilleur pote, mon frère, surtout même jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, quel sujet de conversation? Bah, nous, ça a été beaucoup sur le sport, hein, quand même. On a vachement baigné dans le sport, donc pas mal dans la virilité, même si on est totalement ouvert dans notre famille à tout, à l'homosexualité, enfin, on n'a aucun problème avec les religions, on n'a aucun problème avec ça. On en parle, on est copains avec tout le monde en fait, et on accepte tout le monde. Ouais. Donc finalement, ça a été assez sain nos manières de parler. Après, c'est sûr que quand la séduction est arrivée à nos âges, bah, on a commencé à parler de filles, ça c'est sûr et certain. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment parler, comment on était avec notre sœur. Et ça, c'est je trouve qu'on a été assez sain là-dedans, parce que il y a toujours ce cliché des deux frères qui vont accueillir le mec de la sœur un peu violemment ou le faire chier. Ou... Mm. Bah, il y a toujours cette part d'humour, mais on a jamais été dans la surprotection.
C'était votre petite sœur?
Ouais, c'était notre petite sœur. Elle s'est toujours débrouillée toute seule. Elle a toujours été assez grande, toujours été beaucoup plus intelligente que nous. Donc, je pense que c'était surtout elle qui devait nous surveiller plus qu'autre chose. Ça se passait comme ça. Ouais.
C'était quoi comme sport? Tu disais que vous avez grandi dans le sport.
Mon père a fait beaucoup de rugby. Ma mère a beaucoup de gym à haut niveau. Donc, on a vu ça, on a baigné dans ça, mais on s'est dirigé nous deux, mon frère et moi, dans le judo. Mon frère à haut niveau aussi et ma sœur dans la gym.
Ok.
Mais on a fait pas mal de sport. J'ai fait beaucoup de rugby aussi. Je suis assez fan de rugby et maintenant aujourd'hui on fait beaucoup de surf avec dans toute la famille. Mon père nous a appris à faire du surf.
Ok. Le judo, un sport de combat pour le coup.
Sport de combat. Ouais.
Comment vous en êtes venu à faire du judo?
Bah, c'était des amis de mes parents qui ont dit bah tiens, mets tes fils là parce que tu vas voir, ça c'est une super école de la vie en fait, le judo c'est incroyable, il y a du respect, il y a de l'humilité, il y a plein de règles comme ça à apprendre et qui marchent pour la vie. Et voilà, quand on est petit jusqu'à maintenant en fait, on se bat contre des gars, on se bat contre des filles. Et il y a autant de respect avec les filles qu'avec les mecs. On peut même se faire battre par des filles quand on est ado, qu'elles grandissent plus vite que nous. Donc, tu vois, t'as beaucoup d'humilité à ce moment-là, tu vois. Parce que quand tu grandis dans une société où il faut pas se faire battre par les filles, bah, là, le judo te le montre qu'on peut perdre et c'est génial.
Oui, puis même adulte, hein, tu peux te retrouver contre une championne du monde de judo qui va te rétaler.
Ah oui, non, bien sûr, mais quand t'as un certain niveau et que tu combats contre quelqu'un qui a le même niveau que toi, ado, c'est autre chose parce que les forces se développent pas pareil. Okay. Les filles grandissent beaucoup plus vite, elles sont plus mûres plus vite et du coup, bah, on était un peu en retard au niveau des forces.
Comment tes parents t'ont ouvert aux émotions aussi? Parce que c'est un truc, ça, chez les mecs.
Bah, il y a beaucoup d'artistique, je pense, beaucoup de culture artistique, pas mal dans le cirque. On a été voir beaucoup de spectacles de cirque contemporains.
Ah ouais, pourquoi?
Bah, parce qu'ils étaient fans ils sont fans de ça. On a vu beaucoup de spectacles de cirque contemporains, de petits cirques. Enfin, on a été dans des festivals. Eux sont, ce qu'on appelle l'UNSS, au collège. Mes parents sont profs de PS, les deux. Donc, ils étaient SP cirque.
Putain, je savais pas qu'il y avait des collèges où il y avait des spécialisations cirque.
Ouais, spécialisations cirque. Et donc, voilà, on avait plein de matériel à la maison. On avait cet art.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cet art de création, de se mettre en scène, de savoir comment commence un spectacle et comment se finit et comment réussir à attirer, à émettre une émotion. On se mettait assez souvent en scène, on se déguisait pas mal. Et donc, c'est comme ça que ça, qu'on vivait. Il y avait beaucoup de culture, artistique. Et puis la musique aussi, la musique tournait, il y avait beaucoup de musique qui tournait tout le temps. Quand il n'y a pas de musique à la maison, c'est un vide, je trouve. Dans la maison où j'ai vécu avec mes parents, s'il n'y a pas de musique, je trouve ça vide.
Comment tu t'y es mis justement à la musique,
C'est mon père,
ouais.
Qui joue beaucoup de guitare sur son canapé et qui chante des chansons plutôt brésiliennes, de la bossa surtout. Et donc, je l'ai suivi. J'ai toujours eu envie de lui ressembler. Donc, à un moment donné, j'ai pris une guitare. Il me l'a offert à mes Noëls, le Noël des 17 ans, je crois. Et puis, j'ai commencé à faire des reprises parce que sur Internet, on pouvait trouver plein de trucs. Et qu'une guitare, c'est plus transportable qu'un piano. Donc, j'ai fait ça comme lui, quoi.
Ok. Comment ça se passe dans ta vie générale, à l'école, au collège, au lycée, après, avec les autres mecs?
Je suis plutôt... J'ai toujours été assez populaire dans les écoles. Je pense pas que j'étais le mec le plus viril. Je pense pas. Bien qu'avec le judo, ça pouvait attirer des trucs du style « Ah, il est fort, attention, même s'il n'est pas costaud ». Il y avait ce truc-là, mais j'ai toujours eu des bandes de copains avec des copines dedans.
Ok.
Il n'y a jamais eu que des mecs. Ouais. Ça a toujours été assez varié comme dans les genres, en fait. Je me suis créé une bande de copains au collège qui aujourd'hui existe encore. Et voilà, il y a des garçons et des filles. Et je pense que c'était assez rare au collège. Tu vois, au début des années 2000, quand t'es au collège, les filles, ça fait peur un peu. Et là, on était tous ensemble assez souvent, et même à la maison, on invitait des filles.
Et ça venait d'où?
Et des garçons. Je sais pas. Il y avait un truc qui se passait. Je pense que c'était. Je sais pas comment ça pouvait se passer, parce qu'en plus il y en avait qui avaient des problèmes familiaux chez les filles et les garçons chacun avait une super éducation de respect aussi, donc je pense que c'est comme ça que ça a vachement aidé, en fait. J'ai jamais eu vraiment de copains qui étaient bourrins, macho. J'en ai pas eu. Ou alors je suis pas resté longtemps avec eux.
Ouais. T'avais du mal à te retrouver dedans, c'est ça?
Ouais. Plutôt, ouais. Ouais. Mais les relations humaines me plaisaient beaucoup au collège et lycée. Même aujourd'hui, hein, mais ça a commencé vraiment là, après la primaire. La primaire, j'étais un peu réservé. Et après, j'ai commencé vraiment à m'étoffer et à oublier l'école, d'ailleurs. J'ai détesté aller à l'école. Je préférais être avec mes potes. Et mes copains et mes copines.
Qu'est-ce qui faisait que t'aimais pas l'école?
C'était la manière d'apprendre qui me plaisait pas. Ouais. Je voyais pas comment m'intéresser à ce qu'on m'apprenait. Okay. Je trouvais qu'on me l'enfonçait trop dans la tête, des trucs que j'avais pas envie.
Et tu préférais faire quoi? Passer du temps avec tes potes, c'est ça?
Ouais, passer du temps avec tes copains, faire beaucoup de sport, être ailleurs qu'au collège et au lycée, enfermé, en fait. J'avais envie d'aller à la plage, j'avais envie de... De me dégourdir. Être assis sur une chaise, ça me plaisait pas. Je pense que je bougeais un peu trop.
Ok. Comment t'as fait pour canaliser cette énergie?
En faisant énormément de sport. En bougeant, mes parents nous ont emmenés partout en vacances, en France et à l'étranger. Beaucoup en Europe. Mais on a fait beaucoup de destinations de surf. Donc ouais, on a bougé, quoi. On a vraiment bougé. Puis le surf, quand le surf, c'est quelque chose qui se passe toute l'année et qui... Le sport, il change en fonction de l'année, et ça, c'est un truc qui
Tu tires le surf, tu fais pas du surf de la même façon en été ou en hiver, c'est ça?
Bah, tu réfléchis pas de la même façon.
Ok.
Je
connais pas.
Les vagues sont pas les mêmes. Donc ton surf est pas le même. Tu changes de planche toujours. Tu changes d'habit aussi parce que ta combinaison, elle doit être plus grosse qu'en été qu'en hiver, hiver qu'en été. Ouais. Et donc et puis quand on a une grosse combinaison, ben on arrive à moins bouger. Donc le surf, on le ressent moins.
Et les vagues sont pas les mêmes?
Non, en hiver c'est plus gros.
Ok, parce qu'il y a plus de vent, il y a plus de météo.
Plus de tempêtes au large,
ouais. Ok.
Mais en hiver il y a plus de tempêtes au large, du coup les vagues arrivent plus grosses. Il y a des fortes houles, ouais. L'été il y a moins de vagues, en France. Hein.
Oui.
Et voilà, et ça c'est toute une manière de réfléchir qui nous a plu et qui nous a canalisé un petit peu. Parce que tous les week-ends, bah, on pensait qu'à ça, à se dire bon, où est-ce qu'on va aller surfer? C'est où le meilleur endroit? Comment sont les vagues? Ça, et ouais, mes parents nous ont bien poussé à faire du sport pour nous canaliser.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-cinés, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Il y a un truc aussi, tout à l'heure tu disais que les gens dans ta course, ou dans ta bande, savaient que tu étais costaud. Ça t'est arrivé de te battre?
Pas dans les établissements scolaires.
Mais en dehors, c'est ça?
Ben le judo, en fait, vraiment amène à pas montrer ce que tu fais. J'étais pas costaud, en fait, j'étais agile. Mmh. Et je faisais du judo, donc je connaissais les techniques. Mais c'était surtout qu'on n'avait pas le droit de l'utiliser à l'école. Et ça, on le savait tous. Mmh. On savait tous que si tu l'utilisais, bah, t'avais ton entraîneur qui te virait, en fait, qui te virait du prochain entraînement, parce qu'il savait ce que t'avais fait. Qui t'expliquait que c'était comme une arme, quoi. Mmh. Mais après, quand j'ai commencé à sortir avec mes copains en boîte de nuit, tout ça, là, oui, il y a eu deux, trois accroches, on va dire.
C'est un vrai truc, hein, tu sais, chez plein de mes invités, de canaliser la colère à un moment donné. Elle te venait d'où, cette colère ou ce besoin de la faire sortir, en fait?
Bah, tu veux dire pendant ces soirées-là?
Ouais.
C'était des gros débiles qui ont trop bu et qui se parlent trop fort. C'est surtout ça.
Tu t'inclines dedans, c'est ça?
Ouais, complètement. Les jours où j'ai fait ça, mais je l'ai rarement fait. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui va canaliser les gens et qui va presque se rabaisser pour pas que ça se passe. Qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de bagarre et qu'on arrête tout ça en deux secondes parce qu'on est trop, on est bourré, quoi. Ça sert à rien. Et puis passer une bonne soirée, c'est quand même pas mal.
Est-ce que tu as des souvenirs de ce que t'es, ou des petites phrases que tes parents ont pu te dire qui t'ont amené à, comme tu disais tout à l'heure, à être éduqué avec une idée du respect de l'autre? C'est pas tous les mecs. Hein. J'imagine que tu le sais parce que tu côtoies d'autres mecs.
Tu veux dire de me demander des rappels à l'ordre?
Ouais, ou qu'est-ce qu'ils ont pu faire aussi, tu vois, pour t'inciter à respecter l'autre?
Juste être eux devant nous, en fait, je pense. C'est vraiment ça qui a fait que c'est leur manière d'être devant nous qui nous a poussé à être comme on est aujourd'hui. Et je pense que si mon père avait battu ma mère, ça aurait été une autre partie, là.
Mais tu sais, en fait, ça, c'est quand c'est au sein de la maison, mais quand tu te retrouves après dans des bandes de potes, etc., où tu vois qu'il y a de la violence qui est... Bah, tu peux avoir... Surtout qu'en fait, on est élevé comme... pour être un mec, il faut montrer les biceps, quoi, tu vois. Faut savoir être violent, répondre à la violence par la violence, quoi. Il faut être fort, je veux dire, tu vois, pour dire non, non, moi ça m'intéresse pas, c'est pas mon
truc. Ouais, mais j'ai jamais, enfin, okay. J'ai vraiment jamais vu mon père faire ça en fait. Même lui, avec les autres hommes, les autres gens, mais j'ai jamais vu mon père s'embrouiller avec quelqu'un. Enfin, mal lui parler ou... et devenir violent. J'ai jamais vu ça, donc je me suis jamais dit tiens, je vais faire pareil. Enfin oui, du coup je me suis dit je vais faire pareil, je vais être comme lui, ça marche bien pour lui, il est en bonne santé, ouais, il est heureux, pourquoi je ferais pas pareil? Je me suis pas, il y a vraiment, il y a pas eu de discours ou de choses comme ça qui nous ont poussé à faire ça. C'est, je pense que c'est leur manière d'être qui a fait que nous on est comme ça aujourd'hui.
Ok, c'est une bonne transition pour parler de paternité parce que t'es papa aussi, t'as deux fistons.
Ouais.
C'est ça, si je ne me trompe pas. Qui sont tout petits pour l'instant.
Ouais.
À quel point ça t'a changé, toi, de devenir père et aussi de devenir père de garçon?
Tout ce qu'on raconte est en fonction de ces enfants-là, quand ils naissent. Après, nos histoires, on sait qu'ils vont les écouter, on sait qu'ils vont nous écouter, et du coup, on parle en fonction de ça. Il y a une place qui se développe autre que la nôtre.
Attends, j'arrive pas à te suivre quand tu dis toutes les histoires qu'on raconte.
Tout ce que je dis là,
ouais.
Je l'aurais pas dit de la même manière si j'avais pas eu d'enfant.
Ok.
Et du coup, ça change la manière de parler, de penser, de... La place aussi qu'on a, avant j'étais au centre de moi, maintenant j'ai quelqu'un d'autres entités qui font que je me sens plus au centre et je fais des choses pour eux. Et puis j'ai de la chance de passer beaucoup de temps avec eux, donc être un exemple, là on se rend compte vraiment de ce que ça veut dire être un exemple, parce qu'ils répètent tout ce qu'on fait, ils refont tout ce qu'on fait, et ça se voit, moi je le vois beaucoup, parce que quand je pars une semaine et qu'ils restent avec leur mère, bah, ils deviennent un peu leur mère, et vice versa. Quand je reste beaucoup, bah, surtout le petit de 3 ans, parce que l'autre il a 3 mois, donc
oui.
Il rentre... On voit pas trop la différence, mais le petit de 3 ans et demi chope les mimiques de l'autre, et du coup il y a cet effet d'exemple qui est très important et qu'il faut pas prendre à la légère, du coup, parce que ben voilà, si on se parle mal devant eux, ils vont comprendre que c'est comme ça qu'il faut faire. Si je reste à la maison, ils vont rester dans la maison. Si je vais dehors, ils vont aller dehors. Et tout ça fait que ça les façonne.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir père, toi ?
Que vivre avec des enfants, c'est quand même c'est quand même vachement bien, parce que ça nous reconnecte un peu à cette idée d'enfant. Cette manière de penser d'un enfant, et que moi j'aime beaucoup quand même. J'ai pas du tout envie de l'oublier, et avoir des enfants, du coup, ça nous reconnecte à ça, je sais pas, j'avais envie de partager quelque chose et de créer quelque chose avec un être humain neutre.
que tu peux façonner.
Que je peux façonner, entre guillemets. Après, il y a ce qu'on pense avant qu'il arrive et puis ce qu'on pense après. Et après, quand il est arrivé, je me suis dit que j'allais lui laisser énormément de liberté, que j'allais pas le faire devenir comme moi, que même s'il va en choper des choses que j'ai en moi, mais il y a vraiment une envie de le voir évoluer librement.
Ça fait peur, non, un peu?
Aujourd'hui, ouais, un petit peu. Faut être sûr, quoi. Faut être sûr de soi. Faut être sûr de savoir si on va vraiment réussir à avoir les reins pour faire évoluer un enfant. Et,
et le protéger et faire en, voilà, et faire en sorte que ça devienne un bon humain, entre guillemets. Après, c'est très subjectif hein, de dire que c'est un bon humain, qui oui. est bon. On peut pas savoir.
Non, mais déjà...
Mais aujourd'hui, oui, le respect est une des règles les plus importantes.
J'allais dire, déjà, réussir à inculquer les valeurs de respect à ton môme, c'est, dans la société actuelle, c'est pas forcément évident.
Bah, on a beaucoup de clés quand même aujourd'hui. Hein. On en parle tellement. Il y a tellement de nouveaux supports qui sont arrivés maintenant, des podcasts comme ça, des comptes Instagram, des comptes de réseaux sociaux, des bouquins, il y a des émissions qui font que nos manières de parler changent. Aujourd'hui, à mon fils, quand il a une sœur, une grande sœur, quand il dit ma grande sœur elle a pas de zizi et donc c'est une fille, les phrases 2021 ce serait de dire non, ta sœur elle a un zizi, tu le vois pas, c'est plus les filles ont pas de sexe et les garçons ont pas de sexe, et c'est ce genre de phrase qui va faire que le respect va arriver et l'égalité des genres va exister, parce que on va dire non, tout le monde a un sexe, il est différent. Et il y a plein de manières de parler comme ça. Il y a plein de manières de faire aussi quand ton gamin rentre de l'école en disant non, le rose, je veux pas. Regarde, moi j'ai du rose, je m'en fous, je suis un garçon. Il y a pas de problème avec les couleurs. Il y a pas de couleurs avec des genres.
C'est terrible hein, quand tu les fous à l'école et que d'un coup d'un seul tu te rends compte que t'as passé 2-3 ans à travailler avec eux pour leur inculquer des trucs cool et que tes mômes rentrent un jour et ils commencent à avoir du caca dans la tête.
C'est vrai, après je l'ai pas trop vu hein, quand même hein. Okay. Il est vachement son meilleur compagnon c'est une fille,
ce qui est déjà un vrai truc
en
maternelle.
En maternelle, c'est plutôt... ouais, peut-être pas. Peut-être qu'en maternelle, le genre, on s'en fout.
Ouais.
Non ?
Ça commence
tôt. Je sais pas. En tout cas, lui, je l'ai jamais vu avoir des préférences de garçon ou de fille. Là, il traîne beaucoup avec une fille.
Tant mieux. Hein. C'est marrant parce que tu disais que j'ai un peu l'impression... Enfin, il y a un peu ce cliché comme quoi avoir un enfant et être artiste ou être chanteur, tu vois, c'est pas forcément des vies compatibles. Parce que, alors là, c'est un peu moins le cas, mais t'as une vie de tournée ou t'as une vie où tu vas partir pendant longtemps pour faire ton album, etc. Et de ce fait-là, il faut que tu choisisses un petit peu. J'ai un peu l'impression que toi, ça t'a nourri en tant qu'artiste, en fait, de devenir père.
Ouais, ça... Il y a eu beaucoup de chansons un peu qui ont émergé avec l'idée d'être père. Ensuite, moi j'ai voulu recréer un peu ce que mes parents avaient fait avec nous et j'ai pas réussi à le faire. Parce que j'ai pas le même métier, que je suis pas là. Et du coup, ça m'a fait évoluer aussi dans l'idée de me dire je vais recréer quelque chose avec la même chose que ce que j'ai eu moi avec mes enfants. Non, c'est on fait tous avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut et c'est possible de créer des gens bien, des enfants beaux et bien respectueux, même en n'étant pas là tout le temps en fait. C'est pas parce qu'on n'est pas là que y a pas d'échange. Je reviens quand même assez souvent à la maison. On s'appelle maintenant avec la technologie et il y a plein de manières de pouvoir les éduquer, même en étant loin. Et oui, le métier, les enfants m'ont aidé à redéfinir un peu mon métier aussi, ma manière de parler, ma manière de chanter, quoi chanter, comment le chanter.
Dans quel sens ?
Dans le sens où par exemple cette chanson Un homme, elle serait jamais sortie si j'avais pas eu d'enfant, je pense. Même si j'ai commencé à le mûrir il y a 5 ans, ce truc-là, le fait d'avoir des enfants m'a poussé à me dire
Moi, je pense ça, mais eux, ils vont être comment, du coup, et comment je vais leur dire c'est quoi un homme? Est-ce que je vais leur dire comment ça doit être un homme? Et est-ce que j'aurais juste besoin de leur dire, bah, il faut que tu sois un humain? T'as pas besoin de dire que t'es un homme? Ça a bien empiété sur mon travail.
C'est un truc pour toi aujourd'hui d'avoir deux fils. Tu te sens une responsabilité par rapport à le fait d'éduquer des garçons aussi dans cette société?
Ouais, mais je pense que c'est quand même vachement plus simple d'élever des enfants pour arriver à un respect et une égalité des genres plutôt que changer des gens. Qui ont déjà eu une.
Qui sont déjà grands, tu veux dire?
Qui sont déjà grands et qui ont déjà été façonnés et ça va être beaucoup plus compliqué de les changer. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on est à la phase de. On laisse de la place aux femmes. Mais les hommes ne changent pas. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est les hommes, c'est pas les femmes.
Bah oui.
Et donc, il faut que les hommes se remettent à une place qui va faire que l'égalité des sexes existera. Et c'est en grande majorité l'éducation qui va faire ça. Et donc, les prochaines générations, plus les prochaines générations vont arriver, et je pense que mieux le respect existera. C'est comme l'écologie. Aujourd'hui, on a des générations entières qui arrivent et qui savent où jeter, comment jeter, ces générations-là, ça leur fait mal de jeter des mégots par terre. Mmh. Mais ça, c'est l'éducation qui a fait que. Et l'école.
L'école aide beaucoup, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ils font des vrais trucs pour l'écologie.
Et ça va être pareil sur ce sujet-là. Sur qu'est-ce que c'est être respectueux et égalitaire.
T'as eu, toi, des prises de bec, des prises de tête suite bah justement à, tu vois, ta révélation de MeToo, enfin je crois que vraiment que ça a été une grande claque pour plein de mecs. Je crois aussi qu'il y a des amitiés qui se sont un peu secouées, quoi, tu vois, à cause de ça. T'as eu toi des conversations compliquées avec des potes à toi?
J'ai pas eu des conversations houleuses, mais j'ai eu des j'ai été surpris assez souvent. Ici, on est à Paris, mais dans le sud-ouest, chez moi, j'ai toujours été un exemple fort qui m'a surpris. C'est quand on va au resto à plusieurs couples, que tout le monde se mélange à la table. Dans le sud, j'ai habité 4 ans à Marseille. La plupart du temps, c'est séparé.
Les
filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et moi, plusieurs fois, les débuts de ma première année, quand je m'asseyais à côté, enfin au milieu des filles, j'avais souvent la remarque de bah, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, enfin, laisse les parler, on s'en fiche, tu vois. Et j'avais vraiment ce truc de bah bon, pourquoi, je sais pas. Et il y avait vraiment ce truc là. Après, il y a jamais eu de truc un peu houleux. J'ai jamais, comme je disais au début, j'ai jamais vraiment eu de copains misogynes qui respectait pas les femmes. Donc ça m'est pas tellement arrivé.
Tu t'en éloignes, quoi.
Ouais, je me lie pas d'amitié avec ce genre de personnes.
OK. Dans ta chanson Un homme, tu dis que elle t'est venue aussi par rapport à ta nouvelle paternité. Justement, tu poses la question à ta femme, ou en tout cas à une femme, quoi. Comment t'as trouvé des réponses, toi, aujourd'hui, à toutes les questions que tu poses?
Est-ce que j'ai trouvé des réponses? Ouais, j'en cherche, en tout cas. Je me cultive dans ce milieu, dans ce sujet-là.
Comment tu fais?
Là, je lis un livre de Yvon Jablonka.
Ah, qui va bientôt venir dans mon podcast.
C'est vrai? Ouais. Bah voilà.
C'est lequel?
Est-ce que je m'en souviens du titre? Pas du tout.
Est-ce que c'est Des hommes justes?
Et c'est ça, je crois.
Ok.
C'est exactement ça. Ouais, c'est ça.
Okay.
Où il retrace toute l'histoire du patriarcat, ouais. De ses débuts jusqu'à nos jours et comment on est en train d'évoluer. Et donc ça, c'est un peu scientifique au début, mais après on apprend plein de choses et on découvre comment on est devenu comme ça. Et ça me permet voilà de mieux en parler, de d'être meilleur moi aussi, parce que comprendre pourquoi ça nous aide à le changer. Et puis voilà, dans mon couple, il y a aussi on peut tester des choses aussi, on peut faire le fait de pas faire de choix d'homme. Que notre femme décide que ouais. Voilà qui est plein de trucs comme ça qui font que ça amène à développer tout ce changement et à devenir un autre homme.
Et comment ça se passe pour toi? C'est pas compliqué. En fait, c'est compliqué, non, par rapport
ouais,
à...
c'est compliqué, ouais. c'est compliqué parce que tu te rends compte qu'en fait même il y a plein de choses qui étaient un peu aberrantes mais qu'on faisait quand même. Est-ce que je vais relayer un exemple là? Je sais pas. Mais je sais que il y a plein de fois où je me suis dit ah ouais putain mais ça il faut pas que je le dise comme ça. Il faut pas que je fasse ça. J'ai pas d'exemple là mais je sais que ça m'est arrivé. Quand on le conscientise de toute façon après on voit plein de défauts. Mm. Le plus dur c'est de conscientiser et après de le remarquer.
T'as fait un truc un peu particulier aussi, parce qu'il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui en France, c'est que vous avez accouché de... Enfin, en tout cas, ta femme a accouché de, ouais. De votre deuxième fils dans un accouchement à domicile. Mm. Et je sais, parce que j'ai... Donc, dans mon podcast Histoire de Daron, j'ai eu un mec, notamment, qui a fait tout, qui a raconté en long, en large et en travers son expérience. C'est une méthode où le mec a une place à part en fait, enfin, vraiment en plein dedans quoi.
Là on est clairement en plein dans ce qu'on raconte. D'ailleurs ça peut être ça l'exemple, hein. Mais on est clairement dans un changement à ce niveau-là. Les hommes aujourd'hui parlent au fœtus qu'il y a dans le ventre de leur femme, de leur compagne, et ça c'est un truc qui n'existait pas. Tout le monde était un peu gêné de faire ça. Mmh. Ou ça servait à rien, machin. Et aujourd'hui, moi, je chantais des chansons, on pose la main en se disant qu'on est en train de communiquer comme ça, et donc il se passe quelque chose de beaucoup plus, c'est plus fusionnel. On est plus à deux plutôt que c'est un sujet de femme et elle se débrouille avec pendant 9 mois et puis pendant 1 an après pour l'allaiter et machin. Le fait de faire un accouchement à la maison nous permet d'être beaucoup plus acteurs, nous les hommes, parce que...
C'était une volonté de ta femme à la base?
Non.
Ouais. C'était non. Toi?
Ouais.
Non, c'est vrai.
En fait, c'est moi qui lui ai mis un peu le ver dans la pomme. Son premier enfant, elle l'a déclenché, elle l'a eu à l'hôpital avec une péridurale. Et puis moi, quand on a appris qu'on allait avoir un enfant, je me suis renseigné, j'ai cherché, j'ai lu et j'ai un peu compris que après il y a plein d'avis, mais pour moi la péridurale était néfaste pour l'enfant parce qu'il prenait de ce produit-là dès le début de sa vie et okay. Donc c'était quelque chose qui était compliqué et puis rien que dans la manière de pousser d'une femme quand elle est en péridurale, elle sent pas du tout ce qu'elle fait, donc elle peut tout casser et donc elle vit pas son passage
en tant que mère,
comme elle le devrait. Il y a moins cette connexion entre l'enfant et la mère. Et je lui ai expliqué ça.
Ça vient de toi?
Ça vient de moi.
Ok.
Et donc après, elle s'est mise à le lire aussi. Et donc, mais je lui ai jamais dit, il faut que tu fasses
oui,
comme
oui,
ça.
Oui, oui, oui. Je lui ai expliqué. T'as pas fait comme Tom Cruise, tu sais, qui avait obligé sa meuf à accoucher. Enfin, les scientologues, là.
Non, non.
Tu accoucheras dans le silence.
Non, pas du tout.
Non, mais c'est marrant que ça. Alors, je crois que c'est la première fois que j'entends que ça vient de l'initiative d'un père, quoi. Généralement, c'est plutôt un move de la femme, tu vois, qui dit, moi, j'aimerais bien tenter cette expérience-là.
Ben là, j'avais vraiment envie de voir si c'était vraiment comme ça, que s'il y avait vraiment cette connexion là qui existait. Après on y croit, on y croit pas, voilà, mais avant ils faisaient comme ça et c'était beau, parce que je trouvais en fait que on s'éloignait de plus en plus de cet acte. On s'éloignait de ce truc-là. On se mettait une péridurale, on attendait, c'est fini, on voit plus. Et le fait aussi de pas allaiter fait qu'on repousse encore plus cette connexion qu'il y a entre l'enfant et la mère. Et donc je comprenais pas pourquoi on s'éloignait comme ça. Donc j'ai voulu lire et j'ai compris. Et donc je lui ai expliqué. Et donc elle est arrivée à cette envie de faire sans péri. Pour le deuxième, et puis après voilà, à force de continuer à lire et de continuer à en parler, on s'est dit voilà, le troisième je veux qu'on le fasse à la maison, parce qu'il y a encore plus de connexion, il y a encore plus de bonnes manières, je trouve, pour accueillir un enfant à deux. C'est pas tout seul avec une équipe.
Ouais.
Une équipe médicale, c'est pas allongé sur une table, c'est accroupi où on veut dans la maison. Ça aussi, c'est un truc qui est fou, parce que si on se met à lire un petit peu, on comprend que rien que le fait d'être allongé sur le dos avec les jambes en l'air, c'est pas pour que la femme se sente bien, c'est pour que le médecin voit mieux. C'est complètement dingue, parce que ça lui fait plus mal, le bassin est mal orienté, et voilà. Et donc à force de lire tout ça, elle en est arrivée à la conclusion, si je fais pas de péri, autant que je le fasse à la maison et que je me sente beaucoup mieux. Et puis je pense que le fait d'être célèbre aussi a fait qu'on voulait faire ça tranquille chez nous.
Ah oui, oui, parce que je l'ai même pas précisé, mais en fait t'es marié à Laure Manaudou.
Ouais. Ouais, je suis marié à Laure Manaudou, donc le fait d'être doublement célèbre, ça...
Il y a un truc un peu, vous vouliez pas...
Ouais, on voulait être
tranquille
chez nous. Parce qu'à un moment donné, tu développes aussi un petit peu une espèce de paranoïa où tout le monde est méchant et tout le monde veut savoir quoi. Donc chez toi, personne te fait chier.
Ah, je t'avoue que j'avais jamais vu comme ça. Parce que vous, ça vous faisait chier de vous dire d'être dans un hôpital à un moment donné et que les autres gens... puisse vous voir, c'est ça?
Ouais, quand on était pour mon premier fils, les médecins venaient dans notre chambre en disant, c'est fou, il y a des gens qui appellent à l'hôpital en nous demandant si ils pouvaient venir nous visiter.
Ah ouais?
Et est-ce que vous le connaissez? Non, on le connaît pas.
Ah ouais?
Donc il y a tout ce système là de comment ils font pour savoir, parce que tu le dis, il y a des journaux qui ont su avant que mes proches le sachent que ma femme était enceinte, donc c'est que ça passe par la sécu ou c'est que ça passe par quelque part.
Waouh.
Ouais.
Ok. Ah oui, non mais tu vois, j'avais pas...
Donc après, tu développes une forme de paranoïa qui fait que t'as pas envie d'être avec ça, d'être dans un truc qui va te déconnecter de ce que t'es en train de vivre, parce que t'as envie de le vivre à fond.
Mmh. Oui, et de pas te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de filmer, ouais, ou je sais pas quoi. Ok, je comprends. C'est vrai que... c'est pas des problèmes qu'on a tous les jours, j'avoue que je peux comprendre vraiment. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu disais que effectivement avant on accouchait à domicile, en fait ça se passe, mais en fait aussi avant il y avait pas les mecs
ouais,
n'avaient pas le droit d'y être, quoi. Comment tu l'as vécu, toi, justement, de prendre pleine part à l'accouchement à domicile?
C'est éprouvant déjà. On vit pas l'accouchement pareil, hein. On en sort beaucoup plus fatigué que ça, et en même temps il y a une certaine moi j'ai l'impression d'avoir une relation encore plus forte qu'avec mon premier enfant sur le dernier, d'avoir l'impression de le comprendre beaucoup mieux, même dans les regards et tout, parce que voilà, il s'est passé ça, parce que il nous a entendu quand il est arrivé, que on était que trois dans la pièce. Ma femme pouvait s'appuyer sur moi, en fait. Et ça, c'est quelque chose de vachement plus beau Et encore une fois, je reparle de connexion. C'est, vu que c'est la seule personne à qui tu peux te référer, c'est la personne avec qui t'as fait l'enfant. Bah, ça devient beaucoup plus puissant, quoi. Et du coup, tu restes plus en adéquation avec ce qui est en train de se passer. Plutôt qu'à l'hôpital allongé où t'es avec ton mari, tu le regardes et puis les autres ils sont en train de s'occuper du bas et donc il y a deux entités quoi, enfin il y a deux ambiances.
Je comprends.
Sur un même corps, c'est bizarre. Le cerveau est sur le mari et le bas est sur les médecins. Là, il y a à la maison, il y a tout qui est en même temps quoi.
Et t'as l'impression que ça a augmenté entre guillemets votre couple? Ça l'a... Vous êtes rapproché?
Bah, il y a quelque chose de fort qui se passe, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Et puis tu sais, du coup, tu comprends un peu mieux pourquoi il y a plus de, enfin il y a du temps de récupération pour une femme. Il y a des hormones qui changent et qui travaillent et donc il y a aussi cette compréhension dans les changements d'humeur. Beaucoup plus, bah tu les comprends mieux quoi. Alors que quand t'es à l'hôpital, bon, tu vois rien et que tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas pourquoi ta femme pète les plombs des fois parce que les hormones changent.
Waouh. Et donc ça t'a permis de devenir un meilleur mec, j'ai l'impression.
Ouais, je sais pas si je suis un meilleur mec. Faudra demander à ma femme pour ça.
Non, mais t'as l'air d'avoir pris de l'expérience, quoi.
Mais par contre, oui, t'as une grosse expérience, c'est sûr, d'en faire arriver un être sur Terre, d'en conscientiser pas mal de choses, en fait. Ouais, c'est sûr.
Qu'est-ce que t'as conscientisé, par exemple?
Que c'était assez important, même très important, d'être présent, d'être là, d'accompagner la femme et de pas la laisser comme ça parce que elle aussi ça lui permet de voir que t'es là et que il y a une forme de respect du coup parce que elle comprend qu'elle a pas fait ça toute seule, qu'elle est pas dans la merde toute seule aussi parce que bon c'est un peu grossier mais c'est être un peu dans la merde d'avoir un enfant au début parce que c'est
très animal.
C'est animal. La nuit, on pourrait se bouffer tellement le manque de sommeil est ingrat. C'est pire qu'être malade, manquer de sommeil. Mais faire ça à deux, c'est beaucoup plus facile parce que voilà, on peut en discuter, on peut en parler et ça, c'est plus simple, c'est plus beau. C'est l'enfant se sent plus entouré aussi.
Ok. Bah merci de partager tout ça.
Ben, de rien, merci à vous.
Je voudrais juste terminer pour parler de la chanson que tu as fait avec Ben Mazuet. Mm. Alors, vous avez déjà bossé ensemble avec Ben vous bossez ensemble depuis un petit moment. Lui, il a écrit pas mal de textes justement pour les Frérots de la Vega, si je me trompe pas.
Ouais.
J'étais d'ailleurs, vous avez fait des concerts. J'étais à ce fameux concert à la Cigale, là, juste après les attentats du Bataclan. Mm. C'était assez fou. Et je ne sais pas comment s'est passée cette chanson. Comment est-ce qu'il t'a proposé de venir travailler avec lui? Donc il y a une chanson qui s'appelle
Gaffe aux autres
sur son dernier album que vous chantez ensemble. Mm. Tu peux m'en parler un peu?
Bah cette chanson, elle fait partie de mon premier album Matrioshka.
Ok.
Et on l'avait écrit à Marseille dans mon petit studio. On cherchait à écrire une chanson sur le fait de faire attention aux autres parce que c'est ce que je fais assez souvent en tout cas en tournée. Et lui, il me voyait vraiment en tournée. Et quand je suis en tournée et que je suis avec vraiment tout le monde, et ben on fait en sorte que tout le monde aille bien pour que la tournée se passe bien et que le concert se passe bien. Mais ça va du chauffeur de bus au guitariste en fait.
Ça met une grosse claque au cliché de la rockstar hein, qui
ouais. Ah ouais. Moi, je prenais pas la chambre dans le tourbus. J'aimais pas ça. D'avoir autant de place dans un liron au fond du bus, et je préférais être dans une couchette avec tout le monde et me réveiller avec tous les gars autour et voilà et ça c'est un truc qui me plaît en fait de mettre tout le monde au même
plan
du chauffeur de bus, du mec au son, du mec au décor, du mec aux lumières, parce que ça, tout le monde crée une ambiance qui fait que le concert est mortel et que les gens en plus ressentent comme ça. Ils sentent que tout le monde fait partie du show, plutôt qu'un mec devant et qui est le prisme de tout ça. Et donc cette chanson-là vient de là, je serai le gars qui fait gaffe aux autres pour que tout le monde se sente bien en fait.
Donc c'est Ben qui l'a écrit, c'est ça pour toi?
On l'a écrit ensemble, ouais, dans un studio dans un home studio à Marseille. Et donc elle a été une première fois réalisée pour mon premier album tout seul. Et puis lui a voulu la reprendre d'une autre manière parce qu'il l'aimait trop et qu'il avait besoin de la chanter autrement. Et donc il a eu raison parce qu'elle est vachement belle comme ça aussi.
Il y a un peu une filiation entre vous, j'ai l'impression, notamment en termes de sensibilité, de masculinité, quoi, tu vois.
Bah ouais, clairement, Ben, il a une part de féminité assez incroyable, qui est vachement, qui est vachement visible, en fait, et qui fait du bien. Il est très libre dans ce qu'il raconte, et ça, c'est assez réconfortant pour moi.
Oui, j'imagine que ça fait un bon miroir, quoi. C'est plutôt cool. J'avais fait un épisode avec lui pour Histoire de Daron. Je le dis pour mes auditeurs qui veulent écouter. On avait fait un super épisode où on avait fait un épisode il y a 3 ans, avant son divorce, et on a fait un épisode de post-divorce où on parle de la vie de papa divorcé. C'est aussi un autre.
Il y en a des choses à raconter, lui.
Je vais te laisser partir. T'as une folle journée de promo aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir de t'être confié. C'était vraiment très cool. Je mettrai tous les liens pour te suivre sur les réseaux, dans les notes. Je sais pas si tu t'écoutes un peu des podcasts, mais ça se passe dans les notes en général.
Super.
Merci à toi en tout cas. C'était cool.
Salut.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.